pouvoir entendre ta parole, te laisser nous parler, te laisser nous diriger par ton Saint-Esprit. Puisses-tu accompagner mon frère Brian qui va nous partager ta parole, qui nous fait du bien, qui nous transforme. Et puis, Seigneur, que ce soit pour ta gloire, au nom de ton Fils Jésus. Amen.
Amen.
Merci beaucoup, frère. Merci. Oui, cette phrase du dernier chant, la parole est comme du bon pain qu'on coupe, qu'on partage. Hein? Amen. OK. Bon matin. Buenos dias. Ah, je suis des cours sur Duolingo. Je commence à me rappeler de mon espagnol. No me recuerdo mucho de mi espagnol. Je ne me rappelle pas beaucoup, mais j'apprends. Tournez avec moi dans Matthieu 18, 15. On va poursuivre notre série ce matin sur la résolution des conflits, comment résoudre les conflits au quotidien. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 18, ça fait trois fois qu'on regarde ce passage clé. Il y a beaucoup, beaucoup de stock dans ce chapitre-là que le Seigneur Jésus enseigne à ses disciples et donc à nous qui sommes ses disciples. Dans Matthieu 18, et on va regarder juste un verset ce matin, le verset 18, verset 15, pardon. Matthieu 18, 15. Jésus dit, « Si ton frère a péché, va et reprends-le en toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Donc, ce matin, on va regarder repentir avec douceur ou redresser avec douceur un à un. Puis, la phrase sommaire est celle-ci. Redresser quelqu'un qui nous a offensés doit être motivé par l'amour pour lui et fait de façon respectueuse et sage afin de glorifier Dieu. C'est un témoignage percutant de la puissance de l'Évangile pour nous transformer. Redresser quelqu'un qui nous a offensés doit être motivé par l'amour et fait de façon respectueuse et sage afin de glorifier Dieu. C'est un témoignage percutant de la puissance de l'Évangile pour nous transformer. Dans notre cours, on est en train de regarder les cinq R de la résolution du conflit. Premièrement, rendre gloire à Dieu. Deuxièmement, retirer la poutre, c'est-à-dire s'examiner soi-même dans le conflit. Quelle a été ma part? Quelle est ma part dans le conflit? Troisièmement, on a parlé de relâcher la dette, de pardonner de notre cœur. Et puis, on est revenu sur retirer la poutre en parlant de comment faire une confession adéquate, sans mais, sans si. Et là, on est rendu à redresser avec douceur. Est-ce que la séquence est importante? La séquence dans les airs. Oui, mettez-en. La séquence est très importante. Puis souvent, ce que nous, on fait, les êtres humains, c'est qu'on ne commence pas en haut, on commence ici, mais pas avec douceur. On inverse complètement la séquence. Jésus dit d'abord, enlève la poutre dans ton œil. Puis même avant ça, toute notre vie devrait servir à rendre gloire à Dieu, peu importe les circonstances qu'on vit. Mais nous, les êtres humains, on inverse tout ça. Et la première chose qu'on va faire, c'est de rentrer dans l'autre personne. Puis de dire ses problèmes, ses défauts. Dire ses quatre vérités dans ses yeux. Est-ce que la séquence est importante? Mettez-en, la séquence est importante. C'est comme un peu assembler un meuble IKEA, puis je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça. Les femmes, votre mari dit, « Pas besoin des instructions, moi je sais comment faire ça. » Ah! Il y en a plusieurs! Ouais. Puis je l'ai déjà fait moi aussi, capable. Là, on arrive à l'étape 26. Rentrer le boulon au bout de tel morceau, et puis ça ne rentre pas. Bien, comment ça se fait que ça ne rentre pas? c'est vraiment du testostérone, ça. Testostérone pur et simple. Non, c'est parce que tu recules puis tu comprends pas. Ah oh, non, il fallait mettre telle affaire, tel gugus, tel boulon là, dans le meuble à telle étape, puis on l'a pas fait, le boulon il est là. Faut tout défaire pour remettre le boulon pour pouvoir mettre la vis. Bien, c'est un peu comme ça avec la résolution des conflits. On s'envoie comme ça, là, dans le tas, puis on fesse dans le tas comme on pense, comme on a toujours fait, puis on ne tient pas compte des instructions du Seigneur. Là, on se demande pourquoi ça va mal. Nous autres, quand on est arrivés à Roberval en 93, on a acheté une belle maison. Deux semaines plus tard, ça coulait dans le salon. Et boy! Le plafond du salon faisait un beau rond. Ouais. Puis ça dégoûtait. Là, tu te dis, Caroline, c'est quoi le problème? Bien, le problème, là, c'est que les murs du deuxième étage, le monsieur qui avait construit ça, il s'était construit lui-même, ils avaient appuyé les murs du deuxième étage entre deux soliveaux de plancher du premier, pas sur les soliveaux. Et là, ça s'est affaissé. Il y avait deux plywood de 5-8, puis le mur a commencé à s'affaisser. Ça ne paraissait pas au début, là. Mais ça a commencé à s'affaisser, le contreplaqué s'est rondi, puis là, ça s'est mis à couler plus haut dans le toit. Et là, tu dis, OK, bon, ben là, on va faire quoi avec ça? Hein? On va juste patcher le gyps? Non. Fallait soutenir le mur du deuxième étage, mais pas juste soutenir, mettre une poutre de bord en bord en avant de la maison. L'arrière de la maison, c'était pareil. Et là, c'est pas tout. Il fallait descendre des poteaux, hein, au premier, puis après ça, jusqu'au sous-sol. Fallait reprendre jusqu'au les fondements. Ben oui, c'est un vice caché. Fait que la séquence est importante. Et puis, quand on ne fait pas les choses de la bonne façon, souvent, on est obligé de défaire, puis recommencer, puis repartir du début. Je vais vous lire une petite histoire comme introduction. Dans le livre de M. Ken Sandy, l'avocat chrétien qui a consacré sa vie, la plupart de sa vie à la résolution de conflits, à trouver les principes bibliques sur la résolution du conflit. J'aimerais vous lire ce fait vécu-là comme exemple de quelqu'un qui a eu le courage de reprendre avec douceur et amour. Janet patienta jusqu'à ce que tous les étudiants de Larry passent la porte. Lorsqu'elle vit qu'il avait fini son travail et qu'il avait mis ses papiers dans sa sacoche, dans sa valise, elle entra avec désinvolture dans la salle de classe. Donc, on parle de deux professeurs, Janet et Larry. Lui lançant un petit sourire, elle demanda à Larry, « As-tu quelques minutes? J'ai à te parler. » Larry leva les yeux pleins de suspicion. « Je suis assez occupé pour l'instant. De quoi tu veux parler? » Bien, j'aimerais te demander pardon pour la manière dont je t'ai parlé la semaine dernière et qu'on parle de notre relation. Mais si ce n'est pas le moment, je reviendrai plus tard. Son regard surpris démontra que ce n'était pas ce à quoi il attendait de la part de Janet. Non, c'est bon, j'ai quelques minutes. Merci, dit Janet. Bon, comme je t'ai dit, Je dois te demander pardon pour ce que j'ai dit dans la salle de professeurs mercredi dernier, lorsque tu t'es moqué de moi en face de Steve et de Joyce. J'ai perdu mon sang-froid et je me suis lâché. J'ai eu tort et je suis sûr de t'avoir embarrassé. Veux-tu me pardonner? Surpris par sa transparence, la seule chose qu'il a pu répondre fut « C'est bon, je sais que tu... Je peux être un peu dur parfois. Oublions ça. » Bien, oublier peut prendre assez longtemps. Je préférais que tu me dises que tu me pardonnes. Bien sûr, si tu veux, je te pardonne. Oublions cette affaire. Janet avait préparé cette conversation depuis des jours avec l'aide d'un conseiller dans son église. Ils avaient anticipé le fait que Larry puisse mettre d'un coup leurs différends de côté. Donc, ils avaient planifié une stratégie pour que la conversation puisse se poursuivre. Janet mit ce plan à l'exécution. Puisque je me suis emporté en face de Steve et Joyce, je veux que tu saches que je vais aller les voir et leur dire que j'ai eu tort. Y a quelque chose d'autre que je puisse faire? Y a-t-il quelque chose d'autre que je puisse faire pour que tout rentre dans l'ordre entre nous? Y a-t-il quelque chose d'autre qui t'a offensé? Non, répondit-il. Rien que je me souvienne. Peut-être peux-tu m'aider à comprendre quelque chose. Si je n'ai rien fait qui t'ait offensé, pourquoi as-tu dit de telles choses devant les autres sur moi? J'étais juste en train de blaguer. Tu ne sais pas rigoler? Ben, peut-être que tu n'avais pas l'intention de me blesser, mais ça ne ressemblait pas à une blague, Larry. C'est très embarrassant de rire de moi en face de ceux avec qui je travaille tous les jours. En plus, je ne pense pas qu'ils ont trouvé ça très marrant, très drôle. Et je ne pense pas que je suis la seule à ne pas aller à la salle de professeur afin d'éviter tes blagues. Pardon. Ah, c'est ça. Maintenant, c'est moi le méchant loup, répondit-il avec le sarcasme. Et tous les petits cochons doivent vite aller se cacher dans la maison. Ce n'est pas ce que je veux dire, Larry. Tu as la mauvaise manie d'appeler des gens par des noms et de les humilier. Ce n'est pas un bon exemple pour nos élèves, et je suis désolé de te dire que j'ai entendu le staff se moquer de ta foi derrière ton dos. Sais-tu ce qu'ils disent? Larry ne voulait pas vraiment savoir, mais il fut forcé à dire quoi? Ils disent que tu es un hypocrite, Larry. Ils n'arrivent pas à comprendre le fait que tu sois un chrétien et que tu critiques tout le temps. Larry s'humilia aux paroles de Janet. Et il chercha un moyen de finir la conversation. Mais avant qu'il ne puisse parler, Janet lui dit avec douceur, « Je ne pense pas que c'est ce que tu veux. Je crois que tu veux un témoignage positif. Mais il me semble que tu es piégé dans une habitude de dire des méchancetés aux autres. J'ai lutté avec le même problème, Larry. J'ai blessé tellement de monde par mes paroles. Demande juste à ma famille. » Mais Dieu est si compatissant, il ne nous traite pas comme nous le méritons. Et il veut nous délivrer de nos mauvaises habitudes. Il ne veut pas que nous nous fâchions. Il serait si content si nous nous pardonnions et que nous travaillions à ce que notre relation et notre témoignage s'améliorent ici. Personne ne s'était approché de Larry de cette manière dans toute sa vie. La vérité dans les paroles de Janet l'ont piqué au vif. Mais le ton de sa voix et le rappel du pardon de Dieu permirent une lueur d'espoir. Il s'assit dans sa chaise et soupira de lassitude et de regret. « Je ne mérite pas ton pardon, dit-il. Je t'ai raillé toute l'année comme tout le monde. J'ai toujours utilisé le sarcasme quand je ne sais pas comment me tenir avec quelqu'un. Je reviens à la maison chaque soir sachant que j'ai échoué, mais je ne sais pas comment le changer. » Y a-t-il de l'espoir pour un pauvre type comme moi? Bien sûr qu'il y en a, répliqua Janet en s'asseyant en face de son bureau. Si Dieu m'aide à garder ma langue, il peut aider n'importe qui. Prions et demandons à Dieu de nous montrer comment nous pouvons faire de nos différents passés une opportunité pour démontrer sa puissance dans nos vies. Fait vécu. C'est spectaculaire, n'est-ce pas? L'exemple de quelqu'un qui a repris, qui a redressé avec douceur et amour, qui a pris le risque de faire ça. Maintenant, ce matin, on va regarder à deux choses que le Seigneur nous enseigne. Il n'y a pas beaucoup d'éléments, mais ils sont très importants. Et ça commence avec M. Le premier, c'est le moyen. Quel moyen Jésus nous donne pour redresser quelqu'un qui a péché contre nous? Premièrement, il dit, vas-y, un à un. Est-ce que c'est ça qu'on fait? Est-ce qu'on va parler à la personne qui nous a offensés, puis mettre en pratique ce que le Seigneur nous donne comme moyen? Non, ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on en parle à notre femme, on en parle à nos amis, on en parle aux collègues de travail, on parle à tout le monde, sauf la personne concernée. C'est grave. C'est grave. C'est ça qu'on fait. Bien, pas nous autres, juste nous, tout le monde fait ça. Mais il faut reconnaître qu'on fait ça, frères et sœurs. Et là, le Seigneur Jésus, non. Il dit, va voir ton frère, va voir ta sœur, un à un, seul. C'est révolutionnaire, ça. Ça mine de rien, là. C'est révolutionnaire. Parce que ce n'est pas dans la nature humaine de faire ça. On discute avec tout le monde sauf la personne. Et en faisant cela, non seulement nous ne réglons rien, mais nous péchons contre notre frère et notre sœur par médisance, et nous péchons contre le Seigneur Jésus en désobéissant à sa parole. Deuxièmement, le Seigneur, il ne dit pas ici, mais ailleurs dans la parole de Dieu, c'est clair que le moyen d'y aller, c'est avec douceur. Avec douceur. La parole nous dit, frère, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, c'est l'autre après, là? Ouais, voilà. OK, non, ça c'est le deuxième. OK, je suis un peu perdu dans mes références, mais ici on a Jacques 5, 19, 20. Non, c'est pas ça que je voulais. Bon, OK. Désolé. Galates 6, 1. Frère, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui vous laissez conduire par l'Esprit, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. Vous qui vous laissez conduire par l'Esprit. La version Louis II dit « Vous qui êtes spirituel ». Mais c'est quoi que ça veut dire être spirituel? C'est le contraire d'être charnel. Quelqu'un qui est charnel, la Bible parle, c'est quelqu'un qui réagit selon sa chair. Tu me fais ci, je te fais ça, j'y vais avec ma logique, j'y vais comme j'ai toujours fait, je suis comme ça. Ça, c'est charnel. Quelqu'un qui est spirituel dit non, un instant. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle de mes pensées, de mes émotions, de mes paroles et conduis-moi. Ça, c'est quelqu'un de spirituel. Et la version Sommer dit, « Vous qui êtes conduits par l'Esprit, allez, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. » Paul, parlant au berger, au pasteur, dit dans 2 Timothée 2, 24 à 26, « Or, il n'est pas convenable pour un serviteur du Seigneur d'avoir des querelles, qu'il se montre, au contraire, aimable envers tout le monde. » Ce n'est pas qu'il est aimable, mais il aime. Il est affable, capable d'enseigner, de supporter les difficultés. Eh boy, y en a-tu des difficultés dans une église? Où est-ce qu'il y a du monde? Il y a du trouble. Où est-ce qu'il y a du monde? Il y a des personnalités. Où est-ce qu'il y a du monde, il y a des blessures. Où est-ce qu'il y a du monde, il y a des attentes. Où est-ce qu'il y a du monde, il y a des difficultés. Alors, il dit, capable d'enseigner, de supporter les difficultés, il doit instruire avec douceur les contradicteurs. Qui sait si Dieu ne les amènera pas ainsi à changer d'attitude pour connaître la vérité? Alors, ils retrouveront le bon sens et se dégageront des pièges du diable qui les tient encore captifs et assujettis à sa volonté. Wow! Ça serait merveilleux d'avoir des bergers comme ça, hein? Si c'est vrai pour un berger, ça serait peut-être vrai pour tout le monde. Parce que les bergers sont supposés d'être les modèles du troupeau. Alors, priez pour les bergers, mais attention, parce que tantôt, ça sera vous que le Seigneur va interpeller. Puis ça, on a toute une vie pour... On n'a pas assez d'une vie pour apprendre ces choses-là. N'est-ce pas? Parce que ce n'est pas notre nature. C'est surnaturel. Alors, avec douceur et en dépendant de l'Esprit. C'est-à-dire que là, Jésus il dit, si ton frère a péché, va et le reprends-le. Ça veut dire, immédiatement, bang, vas-y. Ah oui, ah oui. Non. Non, ça ne veut pas dire ça. Parce que chaque fois que le Seigneur nous donne une instruction dans la parole de Dieu, il nous dit quoi faire. Mais le quand et le comment, il faut aussi le considérer. Et souvent, c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit sur le quand et le comment. C'est pour ça qu'il dit, « Vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. » Il faut interroger l'Esprit sur le quand et le comment, comme pour toute chose d'ailleurs. Nous avons de nombreux exemples dans la parole de gens qui ont usé de sagesse et qui ont entendu le bon timing pour reprendre quelqu'un. Par exemple, le prophète Nathan avec David. David commet un adultère avec Bathsheba. Après ça, il commet un crime vraiment terrible en faisant assassiner son mari. Le Seigneur a attendu un an avant d'envoyer le prophète. Pourquoi? On ne sait pas. Ce n'est pas marqué. Mais c'est le Seigneur qui a dit à Nathan quoi dire et quand. Ensuite, on voit Pierre. Pierre qui renie le Seigneur, son maître, pourtant qui avait dit « Jamais je vais te renier. Les autres vont te renier, mais moi, jamais. » Et là, il renie trois fois. Quand est-ce que Jésus l'a repris? C'est juste après sa crucifixion, après sa résurrection, et même après qu'il s'est soit montré aux douze, c'est quand il va à la pêche, puis ils sont tous seuls sur le bord d'une plage. Simon, m'aimes-tu plus que ceux-là? Timing, le timing de Dieu, c'est important, frères et sœurs. Ensuite, la façon dont on fait, le comment. Il faut aller directement et dire, regarde-toi là, tu as fait ça, puis tu as fait ci, puis tu es un pécheur, puis repends-toi. Ouais, c'est direct. Et par amour et pour le bien-être de ton frère, ta sœur, souvent une approche indirecte serait à privilégier pour éviter que la personne ne se sente attaquée, qu'elle ne se sente intimidée, qu'elle ne soit humiliée, qu'elle perde la face, que la personne ne se sente contrôlée ou blessée. Peut-être la personne a déjà été beaucoup blessée ou abusée. On voit Nathan qui reprend David. Il n'arrive pas là, David, tu as péché contre Bathsheba, puis tu as tué son mari. Il raconte une histoire. Hein? Il y avait un homme, il y avait une brebis, il y avait l'autre homme, il y avait beaucoup de brebis, puis etc. Il raconte l'histoire, puis il amène David tranquillement à réfléchir, puis à la fin, il dit... C'est toi l'homme. C'est toi l'homme. L'approche indirecte, on voit Jésus avec la femme samaritaine. Jésus arrive au bord du puits, arrive la femme, il la connaît de A à Z, sa vie. Il connaît sa vie de A à Z. Qu'est-ce qu'il a dit? Garde ma petite, ça va pas bien dans ta vie, hein? C'est quoi que tu fais à coucher avec tous ces gars-là? « Sais-tu, je suis qui, moi, là? » Et... Mais nous, on serait prêts à affronter les gens comme ça, là, à les confronter comme ça, sans sagesse, sans respect, sans douceur. Jésus, il parle de choses communes, l'eau, le puits, même il demande de l'eau, puis il amène la conversation tranquillement aux vraies choses. On voit tellement de respect, tellement de douceur, tellement de sagesse dans sa façon d'agir. Il n'y a pas d'irritation. Il n'y a pas de colère. Il n'y a pas d'amertume. Et ça nous amène à parler du deuxième point, c'est quoi le motif? On parle du moyen seul à seul, avec douceur, selon l'esprit. Mais c'est quoi le motif? C'est quoi qui me motive pour aller te reprendre, là? Ben, tabarouette, ça fait trois fois qu'il me fait ce coup-là. Je vais lui dire, c'est quoi qui motive? L'irritation, la colère. Regardons au contexte de cet enseignement de Jésus. Qu'est-ce qui vient avant? Qu'est-ce qui vient après? Avant, les disciples de Jésus s'approchent et disent « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? » Ah! Qui est le plus grand? Fait que là, ils veulent savoir, là. Hein? Puis Jésus prend un petit enfant et dit « Celui qui devient comme un enfant. » Il dit « Malheur si vous méprisez un seul de ces petits. » Après ça, il parle des 100 brebis, puis le berger qui va laisser les 99 pour aller sauver la seule qui s'est égarée. Puis là, il parle du pardon des offenses. Et après, on a la parabole des deux serviteurs qui, l'un, avait été gracié d'une somme énorme. On avait vu ça la semaine passée. Hein? Puis l'autre, il ne voulait pas gracier. Puis après ça, il ne voulait pas gracier son frère. Fait que tout le contexte nous parle de grâce, d'amour, d'humilité. Le berger qui va retrouver la brebis qui est perdue, quand il la retrouve, il se réjouit. Il se réjouit grandement. Tout comme le Père Céleste se réjouit de ceux qu'il retrouve, ceux qui se sont égarés. Jésus enseigne aussi la nécessité d'user de compassion, comme on a vu dans la parabole sur les deux serviteurs, l'un qui avait été tellement gracié, mais qui ne voulait pas gracier l'autre. On est très loin ici. Pourquoi je vous parle du contexte? C'est parce que c'est pour vous montrer que ce n'est pas dans le motif. Là, je vais aller dire ces quatre vérités. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Le motif, dit Jésus, c'est quoi? Au verset 15. « S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Le motif, c'est de gagner ton frère. S'il pêche, va le reprendre pour gagner ton frère. Tout comme la brebis qui s'est égarée, qui est en danger mortel. Ici, c'est le désir de sauver, c'est le désir de gagner, c'est le désir de restaurer, comme la brebis qui est perdue, de retrouver quelque chose de précieux qui est perdu, la personne et la relation. Et c'est comme si l'âme de la personne qui a péché est en danger. On sait que le péché, c'est un danger. Et quelqu'un qui s'endurcit dans le péché, c'est dangereux. C'est dangereux. Alors, est-ce que je peux laisser mon frère, ma sœur, pécher et ne pas vouloir son bien en le redressant avec amour? C'est ça la question. Mes frères, dit Jacques, là, on est rendu là. Si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'égarait le sauvera de la mort et permettra le pardon d'un grand nombre de péchés. Il ne parle pas de la mort éternelle ici. Il parle de la mort physique, de la mort spirituelle d'une certaine façon parce qu'il ne jouit plus de la grâce de Dieu comme on a vu la semaine passée. Mais le but, c'est de le sauver. Nous vous recommandons, frères, avertissez ceux qui mènent une vie déréglée, réconfortez ceux qui sont découragés, soutenez les faibles, soyez patients envers tous, veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal. Mais en toute occasion, recherchez le bien dans vos rapports mutuels, comme envers tous les hommes. Recherchez le bien. C'est quoi le motif? Recherchez le bien. C'est quoi les bons motifs pour reprendre quelqu'un selon la parole de Dieu? Rechercher son bien, vouloir le sauver des conséquences désastreuses. C'est l'amour. C'est l'amour. Reprendre avec douceur vise surtout la restauration de l'autre. C'est donc très différent d'une simple confrontation. Qu'est-ce qui pourrait nous motiver, donner des faux motifs pour reprendre quelqu'un, vouloir avoir raison? C'est moi qui ai raison. Vouloir se justifier. J'ai fait ça, puis toi, tu n'avais pas d'affaire à faire ça, puis moi, j'avais raison, puis c'est pour ça que j'ai fait ça. Alors, c'est pas redresser, là. C'est se justifier. Vouloir se prévaloir de ses droits. Vouloir humilier l'autre. Vouloir gagner. Vouloir s'élever. Vouloir se venger. Vouloir remettre l'autre à sa place. Si on va pour redresser quelqu'un et que notre motif n'est pas l'amour et le bien-être de l'autre, arrêtons-nous. Arrêtons-nous. Allez-y même pas. Vous n'accomplissez rien de bon, et moi non plus. Et souvent, malheureusement, ces motifs-là, ces faux motifs-là, c'est ce qui nous motive pour aller reprendre quelqu'un. Et même des fois, on n'est même pas conscient, nous autres-mêmes. Oui, Lourdes?
Ça commence avec notre introspection à nous. Ça commence là. C'est pour ça, je pense que quand on va trouver ces raisons dans notre cœur, ouais, c'est ça qui va prendre un temps plus pour nous examiner, nous évaluer, ouais, et nous peut-être aller avec Dieu avec ça.
Absolument. Absolument.
Peut-être tout au long de processus, aller toujours voir, faire une introspection, mm-hmm, de nous-mêmes.
Veux-tu le dire en espagnol? Ah.
Por eso es importante cuando queremos ir a hablar a alguien y de lo que hizo o de lo que no hizo, es la primera etapa, es examinarse a sí mismo y de ver, de analizar cuáles son nuestros motivos, por qué queremos hacerlo. Y ahí, cuando encontramos estas cosas, podemos ir hacia Dios y de pedirle perdón, porque nuestros motivos no son loables, no son buenos.
Gracias. Oui, tout à fait. Excellent. Paul dit dans Éphésiens 4, il dit qu'on devrait se parler avec amour, qu'on devrait renoncer aux mensonges et se parler avec amour, dire la vérité les uns aux autres. Verset 25, Éphésiens 4. C'est pourquoi renoncer aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Puis au verset 31, il dit que toute amertume... Désolé. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Dans la version sommaire, c'est toute irritation. Alors, si je reprends quelqu'un, puis dans mon cœur, je suis irrité, ça ne marche pas, là. Je ne le reprends pas pour les bons motifs. C'est un faux motif. C'est par frustration, et là, je veux me faire du bien, je vais lui dire. Oui, Jacqueline?
Les mauvais motifs, les conséquences, c'est terrible.
C'est ça.
Parce que non seulement tu ne gagnes pas la personne, mais tu participes à sa chute.
Wow! C'est quelque chose. Veux-tu le dire en espagnol? Mon espagnol n'est pas assez bon encore. Ça va venir. Merci. Merci, mes sœurs. Je suis obligé... Honnêtement, frères et sœurs, de dire que j'ai du chemin encore à faire. Je suis pas tout seul, hein? OK, merci. Bon, merci, Micheline, c'est bon. C'est bon, mais j'ai du chemin à faire. Je peux avoir raison dans ce que je dis. Je peux avoir raison dans la situation. Je peux avoir raison sur l'offense. Puis si j'ai pas le bon motif, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Jésus dit, s'il t'écoute, tu as quoi? Gagné ton frère. Ton frère. Vous savez comment ça marche, là? Nous autres, les êtres humains, les êtres humains, quelqu'un nous fait du mal, là. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Dans notre tête, là, la personne devient son mal. On ne voit plus la personne. On voit juste son mal. Mais est-ce que c'est comme ça que Jésus, lui, nous a traités? Non. Vous avez Jésus ici sur l'image qui voit le cœur, qui voit ton cœur, qui a vu ton cœur. Et bien sûr qu'il a vu tes péchés, tes problèmes, ta personnalité puis tes échecs. Est-ce que ça l'a arrêté d'aimer ton cœur, d'aller vers toi? Non. Non. Mais nous, souvent, on ne voit plus le cœur de la personne. Je ne sais pas si je suis capable, non? On voit juste le péché, les problèmes, les... Hein? Vous comprenez? On n'est plus capable de voir la personne en arrière. On voit juste, là, regarde ce qu'il m'a fait, regarde ce qu'elle m'a fait. Ici, c'est l'Évangile. Et encore une fois, on voit combien de fois depuis le début du cours que la résolution des conflits, c'est l'Évangile appliqué. Et encore une fois, ici, c'est extraordinaire. Encore une fois ici, c'est l'Évangile appliqué. Ce que Jésus a fait pour moi, je le fais pour les autres. Ce que Jésus a été pour moi, je veux l'être pour les autres. Et c'est à la mesure que je comprends et que je saisis et que je vis l'amour et la grâce de Jésus pour moi que je vais, ça va me transformer, je vais être capable d'être ça pour les autres. Amen. Maintenant, qui doit faire le premier pas? La personne qui a offensé ou la personne qui a été offensée? La personne qui a offensé, qui vote pour ça? Tous ceux qui sont pour, tous ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent. OK? Bien, ici, dans le passage, Matthieu 18, là, c'est la personne qui a été offensée. Si ton frère pêche contre toi, va et reprends-le avec douceur. Oui, Jonathan?
OK.
OK. OK. Je, oui. Oui. OK. Ah, c'est bon, ça. J'aime ça. Il dit que c'est la personne qui connaît Dieu qui devrait faire le premier pas. C'est excellent. C'est excellent. Mais regardez bien ça. Jésus dit aussi, dans Matthieu 5, 23, « Si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, donc tu l'as offensé, laisse-là ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère. » Fait que là, il parle à l'offenseur, là. Il dit, si ton frère, tu te rappelles ton frère, il y a quelque chose contre toi, là, va te réconcilier avec lui. Donc, l'offenseur, celui qui a fait la faute, Jésus dit, va réconcilier. Ici, dans Matthieu 18, si ton frère a péché contre toi, c'est toi l'offensé, c'est l'autre l'offenseur, il dit, va le reprendre pour que tu gagnes ton frère. Il parle aux deux. Il parle autant à un qu'à l'autre. Jésus demande à la personne qui a fait l'offense d'y aller, il demande à la personne offensée d'y aller. Qu'est-ce que ça vous dit sur l'importance des relations des enfants de Dieu pour Jésus? Très important. Ce n'est pas la question de qui va en premier, qui va en deuxième. L'important, c'est de restaurer la relation. Amen. Oui, Jacqueline?
C'est que ça peut arriver que la personne, maintenant, qui a offensé, ça peut arriver que la personne qui a offensé, elle ne le voit pas. Puis que la personne à qui ça devrait être, qui devrait aller, elle, elle ne le voit pas. Puis que l'autre, ce n'est pas à elle, mais elle le voit. Bien, c'est celle qui le voit qui devrait y aller parce que même si ça ne te revient pas, on va dire d'une certaine façon, si le Seigneur te l'a montré puis que l'autre, il ne le voit pas, bien, je pense qu'à ce moment-là…
C'est un bon point. Si le Seigneur te le montre, bien, ici, le Seigneur nous montre dans sa parole que peu importe que tu sois la personne offensée ou que tu sois celui qui est offensé, dès que tu le sais, bien là, le Seigneur, tu sais, il veut que tu fasses quelque chose pour la réconciliation. Je me souviens, il y a plusieurs années dans notre mariage, je m'excuse, chérie, je ne t'ai pas parlé de ça avant, là. Mais elle sait ce que je veux dire, par contre. Là. J'étais frustré, et ce n'est plus le cas, mais j'étais frustré, je me plaignais à mon épouse que c'était toujours moi qui faisais le premier pas après une chicane. Pourquoi c'est toujours moi? Non. Non, non, ça me frustrait vraiment, là. Ça me frustrait vraiment, là. Mais ça témoigne de quoi, ça, cette frustration-là que... Bien, c'est ça, hein? Ça n'a pas d'importance. On voit ici que pour Jésus, ça n'a pas d'importance. Que tu sois l'offensé ou l'offenseur, va te réconcilier. L'important, c'est la relation. Gagner ton frère, le sauver. Donc, là, tu te plains parce que c'est toujours toi qui fais le premier pas. Est-ce que ça a lieu d'être, ça? Non. C'est fondé sur l'orgueil. Je ne vous... Ah, OK. Attends un peu, on va mettre ça sur... on va faire enregistrer ça, là. En espagnol, s'il vous plaît. C'est ça. Mais je ne voulais pas être toujours celui qui s'humiliait, qui perdait face. Mais lorsque le motif est l'amour, si le motif est l'amour, qu'importe qui fait le premier pas, dans le fond. Bien, c'est ça, c'est d'être plus centré sur toi-même que sur la relation. Et honnêtement, dans un conflit, c'est rare que c'est tranché au couteau entre l'offenseur et l'offensé. La plupart du temps, les deux ont des torts. On a vu ça, hein? On a vu ça. Mais le problème, c'est que quoi? Nous, les êtres humains, on aime se positionner comme étant le victime, l'offensé. Celui à qui on a fait le mal. On se positionne comme ça. Pas vrai? Oui, c'est vrai. On le fait tous. On fait tous ça. On aime ça, se positionner comme étant la victime. Et donc, c'est pas à moi, c'est à l'autre de venir. On se convainc très facilement que c'est l'autre personne qui doit faire le premier pas et demander pardon. Nous prenons le rôle de la victime et de l'offensé et on se dit, non, c'est pas à moi, c'est à l'autre. Mais ici, Jésus renverse. Il dit, toi là, la victime là, va reprendre ton frère. Attention, c'est quoi le motif? Avec douceur, par amour, pour gagner ton frère, restaurer la relation. C'est tellement simple, mais tellement profond en même temps. Ça bouleverse notre monde, n'est-ce pas? Notre monde intérieur, la façon qu'on a de se regarder, de se concevoir, de concevoir la situation. Jésus prend ça, puis dans deux phrases, il renverse ça. Wow! C'est l'Évangile. C'est ça que Dieu a fait pour toi. Dieu qui t'avait tout donné, la vie, la santé, les ressources, les amis, la famille, toutes tes capacités, toi qui as bafoué du revers de la main son amour, toi qui as vécu ta vie comme s'il n'existait pas, sauf pour le blâmer pour les déceptions que tu as vécues, et de plus tu as agi contre ses valeurs à plusieurs égards, toi, l'offenseur, lui, l'offensé, Dieu, et c'est Dieu qui prend le premier pas vers toi. C'est Dieu, lorsque nous étions encore pécheurs, lorsque nous étions encore ses ennemis, Christ est mort pour nous. Voulez-vous un plus grand exemple? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Lui, l'offensé, a fait le premier pas. Je vais vous lire une autre petite anecdote, c'est tout court. Monsieur Sandy, il dit qu'après une conférence sur la résolution du conflit, il était assis dans un restaurant d'un dimanche, et puis tout d'un coup, un des hommes qui avait assisté à la conférence, il l'aperçoit, il s'en vient tout souriant. Il dit, « Je dois vous dire ce qui vient tout juste de passer. Votre prédication m'a vraiment touché parce que j'ai un voisin qui ne m'a pas parlé depuis 2 ans. Nous nous sommes fâchés sur la pose d'une clôture. Lorsque je n'ai pas voulu la mettre là où il la voulait, il a tourné le dos, il s'en est allé en tapant du pied. Puisque j'ai pensé que j'avais raison, j'ai toujours pensé que c'était à lui de faire le premier pas pour restaurer notre amitié. Ce matin, j'ai compris que le Seigneur voulait que ce soit moi qui cherche la réconciliation. Donc, je suis allé juste après l'église pour lui parler. Je lui ai dit que j'étais désolé de m'être comporté avec autant d'entêtement il y a 2 ans et que je voulais que l'on soit amis encore à nouveau. Il est presque tombé à la renverse. Il m'a dit qu'il se sentait mal depuis qu'il était rentré fâché chez lui, mais qu'il ne savait pas comment venir me parler. Ça alors, il était content que je vienne lui parler. On reste figé dans nos positions. C'est lui qui a tort. C'est à lui. Puis l'autre dit, non, c'est pas à moi, c'est lui. Là, on reste campé dans nos positions comme ça. C'est pas l'Évangile. C'est pas ça que Dieu a fait pour nous. Et le but et le motif est très, très, très important. Donc, redresser quelqu'un qui nous a offensés doit être motivé par l'amour pour lui et de façon respectueuse et sage afin de glorifier Dieu. C'est un témoignage percutant de la puissance de l'Évangile pour nous transformer. Maintenant, j'ai deux questions pour terminer. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus te dit ce matin sur le moyen et le motif dans ton cœur lorsque tu reprends quelqu'un? À qui penses-tu ce matin? Il y a une relation peut-être qui ne va pas bien, une relation qui est brisée. Qu'est-ce que le Seigneur te dit sur ton cœur? Et deuxième question, qu'est-ce qui t'empêche vraiment d'aller vers l'autre? Vraiment. soit pour demander pardon, soit pour reprendre avec douceur. Qu'est-ce qui t'empêche? Prions. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui est une lumière à nos pieds, une lampe sur notre sentier. Ta parole éclaire nos cœurs. Et Seigneur, des fois, ce qu'on voit, ce n'est pas beau. Ce matin, Seigneur, je suis vraiment confronté à la différence entre mon cœur et ton cœur. Pardonne, Seigneur, pardonne-moi. Purifie mes motifs. Et fais-nous, Seigneur, Seigneur Dieu, Père Céleste, fais-nous, comme tu dis dans ta parole, comprendre davantage l'amour de Jésus. La saisir, le saisir davantage dans toutes ses dimensions, la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, et de connaître cet amour, de l'expérimenter, de vraiment le vivre pour être rempli de ta personne, Seigneur Dieu. C'est impossible à nous, mais c'est toi qui peux faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. C'est vraiment un miracle de transformation, Seigneur, qu'on te demande pour chacun de nous et pour cette Église, pour la gloire de Jésus. Amen.